Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International en cette fin d'après-midi et pour vous parler de football avec l'OM. L'OM, ou comment arrêter la spirale infernale des défaites et des déroutes en Ligue des Champions. Une chance dès ce soir pour l'équipe dirigée par André Villas-Boas, marquer un premier but et marquer les premiers points face aux Grecs de l'Olympiakos, ce qui pourrait même signifier, qui sait, une qualification en Ligue d'Europa. Éric Mamrut est en route pour le Vélodrome, mais nous l'écouterons. Deux grandes équipes européennes jouent gros aussi ce soir. Le Real Madrid qui doit gagner en Ukraine face au Shakhtar pour se qualifier, alors que Liverpool doit aussi vaincre l'Ajax sous peine de frayeur comme l'an dernier. Et puis un coup de projecteur dans cette émission sur le championnat d'Italie, la Serie A, où fait inédit depuis 9 ans, les deux clubs milanais sont en tête, alors que la Juventus de Turin fait du surplace. Et là, c'est Matteo Cioffi qui nous en dira plus, mais messieurs, vous en parlerez aussi avec nous. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là aujourd'hui avec nous dans ce studio avec Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis Chérif Guémour, bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Oui, le micro, voilà, c'est mieux en face. Chérif Guémour qui a un beau maillot de la sélection argentine. Je ne vous demande même pas le numéro qu'il y a dans le dos parce que je l'imagine déjà.
Il est curieux.
Avec vous et avec SoFoot en général. Très beau travail autour de Diego Maradona. Radio Foot préparé avec David Finzel et Laurent Salerno qui est à la réalisation aujourd'hui. Radio Foot, c'est parti.
Ça me parle, mais alors j'arrive pas à trouver.
Alors,
si vous avez une heure, je vous dis ça à la fin.
Vous allez utiliser une application pour trouver ça, Nabil. Je vous connais. C'est Miles Davis.
Ah voilà. Ouais, oui.
Et c'est la musique d'un film.
Ah, s'en sort pour l'échafaud.
Voilà. Ouais. On commence par le même, n'est-ce pas? Alors, David Finzel et Laurent Salerno ont trouvé que c'était de bon goût aujourd'hui pour commencer l'émission. L'OM, en plus, est à la croisée des chemins ou de son destin. Le meilleur ou le pire, écrit en sa une, la Provence, en se référant au rendez-vous de ce soir. Bien sûr, l'Olympique de Marseille recevra le club du Pirée, l'Olympiakos. Et une victoire sur les Grecs, même inespérée, est très, très, très attendu, souhaité, espéré. Une histoire d'honneur, avait-on dit la semaine dernière, lorsque l'OM allait déjà jouer à domicile. C'était contre Porto et ça s'était soldé par une défaite. D'ailleurs, évidemment, ce peut-être match nul, peut-être un but, peut-être une victoire, serait une manière d'arrêter la spirale infernale des 13 défaites consécutives dans cette compétition, enchaînée par l'OM depuis 2013, parce que ça fait aussi 7 ans que l'OM ne disputait plus la Ligue des Champions. Il y a eu 4 défaites consécutives ces derniers jours. Et évidemment, en plus, l'OM doit se déplacer à Manchester City pour la dernière journée. Donc, les joueurs font profil bas, mais ont conscience de l'enjeu du jour. Écoutons Boubacar Camara.
L'OM se doit de jouer l'Europe. Après cette bonne saison qu'on a passée l'année dernière, on avait à cœur de faire un bon truc en Ligue des Champions. Ça ne s'est pas passé, donc on va essayer de rebondir en Europa League. On a fait de la merde, il faut se le dire, et on ne peut pas se cacher. Donc oui, c'est une source de motivation parce qu'il faut gagner, et il faut avoir de l'amour propre. Il faut tout donner pour gagner ce match. C'est une source de motivation et il faut continuer, il ne faut rien lâcher.
Ça les rend vulgaires quand même, cette Ligue des Champions, les mots qu'ils emploient.
C'est affreux, hein. Ouais. Les joueurs se disent motivés, l'entraîneur donc compte sur leur victoire en championnat récemment face à Nantes pour les relancer. Alors peut-on croire au miracle ce soir au Vélodrome? Éric Mamrut, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Je suis pas coincé dans l'ascenseur, hein, comme Maurice René dans le film. N'inquiétez pas.
Oui. On s'inquiète pas pour vous, on s'inquiète plutôt pour eux. Parce qu'il y a aussi des ascenseurs au stade Vélodrome, mais eux, théoriquement, ils le prennent pas. Éric Mamrut, est-ce que vous...
Ils sont déjà au rez-de-chaussée ou à l'entresol.
Oui, hein. C'est ça. Ils sont à la hauteur de la pelouse, pratiquement.
Mais vous êtes dur quand vous parlez de miracle, quand même. C'est un peu sévère, quoi. C'est l'Olympiakos en face, quoi.
Oui, l'Olympiakos sévère. Qui leur a infligé leur première défaite dans la compétition.
Tout le monde leur roule dessus, donc...
Éric, est-ce que vous êtes prêt à vivre un moment historique ce soir au Vélodrome ?
Vous êtes caustique, c'est pas gentil ça non. Pour nos amis olympiens.
On vous met juste en boîte.
Adorés par nos camarades africains.
Oui.
Non, un grand moment, bah oui, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une victoire en Coupe d'Europe. 12 matchs sans victoire en Coupe d'Europe en comptant la Ligue Europa. La dernière victoire, attendez, c'était en 2018, la demi-finale contre Salzbourg. Mais pour remonter
en Ligue des
Champions, c'était l'Inter de Milan en 2012. Effectivement, oui, ça commence à dater. Ça fait 8 ans, donc ça serait historique, effectivement, une victoire de l'OM ce soir en Ligue des Champions. Mais en même temps, dans le groupe, le match le plus abordable, c'était celui-là. Hein. L'Olympiakos, supposé le plus faible du groupe, à domicile. Donc s'il y a un match que l'OM peut ou doit gagner, c'est bien celui-là, c'est sûr.
David Gélit, je vous sens pas optimiste.
Je pense que c'est jouable hein, en termes de réalité de rapport de force et tout. Si l'équipe qui est annoncée dans l'équipe, je sais pas si vous avez des informations à ce niveau-là, Eric, est celle qui ressemble presque à une équipe type ou du moins celle qui a plutôt bien joué face à Nantes.
C'est la même.
Voilà, vous avez des arguments pour espérer gagner, mais moi je suis interpellé par déjà la communication de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille qui a déjà lui dit que ça...
reprise par son joueur en plus ouais, hein, voilà. Quand Chérif parle ouais. De vulgarité
donc déjà
il y a des ministres qui le font aussi.
Moi déjà je me dis que le club a baissé les bras, je vois pas en quoi les joueurs eux pourraient c'est le signal qu'on leur a envoyé, parce que la vérité en coulisses c'est que Villas-Boas lui veut vite en terminer avec cette Ligue des Champions et surtout et c'est là où c'est le plus important, et ça nous ramène peut-être au match d'aujourd'hui, même si une victoire ne suffirait pas à se qualifier en Europa League, c'est qu'il veut absolument pas aller en Europa League, parce que il a compris qu'il y avait un coup à faire en championnat, parce que le championnat cette année est assez ouvert, et qu'il y a 4 ou 5 équipes.
C'est faible.
Non, mais c'est pire que ça, il a dit les deux, il a dit que ça l'intéressait pas, puis il a dit si on est qualifié, on va la jouer à fond.
Non, mais c'est Marseille qui l'intéresse pas, Villas-Boas.
C'est une mise au point.
C'est pas une extrapolée, c'est la vérité de dire que Villas-Boas, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire qu'il aimerait bien être président de Porto ou d'aller voir ailleurs. Marseille, il en a marre. Moi, je trouve scandaleux sa communication, parce qu'on l'a dit la semaine dernière dans le match en direct. C'est un mec qui est resté pour la Coupe d'Europe. Il n'est pas resté pour la Ligue 1, parce que vu le niveau de la Ligue 1 et qu'en l'espace de 15 jours, vous pouvez boucher de 6-8 places en 2 matchs, n'importe quel entraîneur moyen français met Marseille dans le top 5 en Ligue 1. Lui, il est resté pour la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe est un fiasco historique. Quand bien même il gagnerait ce soir, quand bien même il ferait 6 points...
C'est de la faute de Villas-Boas ?
En grande partie, là, sa part de responsabilité. C'est lui qui entraîne les joueurs, c'est lui qui a un message, c'est lui qui a un discours. Aujourd'hui, quand je vois les joueurs de l'OM, que le niveau de l'OM n'ait jamais été transcendant sur les dernières années, c'était plutôt le cas, mais il y a un truc qu'on pouvait pas leur reprocher, c'était le cœur et l'état d'esprit. C'est une équipe qui a fait une finale de Coupe d'Europe, qui s'est hissée en Ligue des Champions, quand bien même le championnat ne se serait pas fini, avec l'état d'esprit, avec le cœur. Certaines qualités de certains joueurs.
Un peu par le mais coronavirus
surtout,
aussi.
Oui, mais surtout avec le cœur et l'état d'esprit. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'état d'esprit. Personne ne pose la question. Moi, j'aimerais bien qu'on pose la question aux joueurs. Est-ce que vous l'avez lâché, l'entraîneur ? Quand on joue comme ça, c'est qu'on n'en a plus rien à faire de son entraîneur.
C'est eux qui lui ont demandé de rester. Donc, ils auraient du mal à
c'est
faire.
C'est eux qui lui ont demandé de rester, oui.
En coulisses, en fait, lui, il voulait partir.
Voilà.
Il a été voir Hérault, mais Hérault lui a dit, hors de question que je te donne la dernière année de contrat.
Non, mais
donc, tout Villas-Boas qu'il est, tout philosophe, romantique, voyageur, aventurier, distancé.
Polyglotte.
Voilà, qui a une certaine, il a été rattrapé par une réalité financière. Il n'avait pas d'autres propositions.
Déjà.
Et il s'est dit, je vais me couvrir. En expliquant que je vais faire cette année la Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. Et tout le monde m'adore, c'est un plébiscite. Le vestiaire ne veut absolument pas que je parte. Mais si on lui avait donné cette dernière année de contrat, il est fort probable que Villas-Boas, on ne serait pas là en train d'en parler.
Non, mais de toute façon, ils auraient fait quoi au moment du tirage? On savait très bien que dans ce groupe-là, Marseille ne passerait pas. Donc, c'est pas non plus une surprise.
Mais Chérif,
le truc.
Chérif,
non, entre eux, c'est pas ce qu'on Chérif, disait au moment du tirage au sort, Chérif.
Chérif, entre eux,
c'est
pas passé.
Chérif
a raison. Chérif a raison de dire qu'au tirage au sort, oui, il y en a qui ont dit il y a de la place, oui, mais parce qu'on.
Non.
On est toujours très hautain avec les étrangers.
Oui, voilà.
C'est-à-dire que. Entre eux, passer et montrer autre chose, c'est pas pareil.
Ah non, mais moi je suis d'accord.
Que Marseille ne soit pas au niveau de Porto et de l'Olympiakos, contrairement à ce qu'on dit beaucoup qui ne regardent pas a priori le foot étranger, c'est une chose. Tu as le droit de perdre contre Porto, tu peux même perdre contre l'Olympiakos, qui est pas une équipe dégueu. Hein.
Ouais.
Mais après, tu peux perdre aussi en montant quelque chose. Oui, perdre avec le pantalon sur les chevilles en attendant que ça se termine, ça, c'est pas du foot.
Non, tu peux perdre,
mais tu dois montrer autre chose. Et ce qu'on peut reprocher à Marseille, c'est de ne pas avoir montré autre chose. On va pas reprocher à des mecs qui ont un jeu moyen en Ligue 1 de pas être terrible en Coupe d'Europe. Ils ont pas le niveau.
Shérif.
Non, mais moi, je suis entièrement d'accord. Que ce soit l'entraîneur ou les joueurs, pour moi, les responsabilités sont partagées. Je suis désolé. C'est pas, c'est pas Villas-Boas à l'aller à l'Olympiakos qui dit bon bah les gars vous allez jouer le 0-0 et puis c'est pas l'entraîneur qui met ça en place, c'est les joueurs qui se satisfont et c'est là que ça commence à dérailler dès le premier match.
Bah oui,
c'est pas lui qui met en place, il a le droit aussi, même si c'est pas lui qui donne la consigne au début du match, la préparation du match, il a le droit pendant le match de demander à ses joueurs de montrer autre chose et de faire des coachings qui vont dans le sens de ce qu'ils montrent. Bien sûr que si, Shérif. Ah bon, donc ils font pas alors. Il fait pas alors.
Il y a eu des remplacements, il y a eu tout ce que tu veux.
Écoute, on fait les matchs en direct. Tous les 15 jours. Je te jure, Shérif, les coachings de Villas-Boas,
c'est toutes les semaines.
Ni fait ni faire. Ouais, toutes les semaines, c'est ni fait ni faire.
Dès les premières minutes contre l'Olympiakos, les gars, ils sont pas dedans. Et c'est comme ça depuis le début. Je veux bien qu'il y ait une responsabilité de l'entraîneur, mais qui est évidente. Mais pour moi, c'est l'année en trop. Mais on est tous d'accord là-dessus. Les joueurs ne sont pas. Aucune rébellion.
Déjà, quand le leader de l'équipe, c'est important quand même à signaler. Là, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, c'est la pire équipe en Ligue des Champions. Et le groupe, même si, effectivement, il faut respecter l'Olympiakos et le FC Porto. Pour en discuter avec certains, c'est pas un grand FC Porto, c'est pas un énorme Olympiakos. Tu peux espérer mieux.
Je dis pas que tu vas te qualifier, mais
tu peux espérer quand même faire mieux. Mais quand ton leader, je veux dire, au-delà de l'entraîneur, quand ton leader, il est en surpoids, c'est-à-dire que faire son procès ni quoi que ce soit. Déjà, le signal, il est mauvais. Il est même pas prêt pour la compétition la plus importante du football.
Nabil, l'entraîneur, c'est pas l'entraîneur de dire au leader de perdre du poids, de le foutre sur le.
Voilà. Si, mais bon, après, à 33 ans, il peut aussi se prendre en main.
On est bien d'accord.
En tout cas, la dynamique Payet-Thauvin avait l'air plutôt bonne contre Nantes. Ouais. Mais voilà. Alors, Eric Mamrut, il y a un fait important. L'Olympiakos, donc, qui avait infligé cette première défaite au Phocéen pour le premier match de Ligue des Champions, arrivera sans Mathieu Valbuena. Enfin, il est là, il est présent, mais il ne jouera pas. Il est blessé. C'est quand même le chef d'orchestre. C'est celui qui avait un peu dynamité Marseille au match aller.
Complètement, et c'est pour ça que l'OM va gagner ce soir. Moi, je peux vous l'annoncer. Effectivement.
Vous avez votre boule de cristal, alors.
Oui, non, moi, je vois, parce qu'effectivement, en match aller, effectivement, on n'est vraiment pas vu une bonne équipe de Marseille, sans inspiration, sans jeu vraiment mis en place, enfin, sans, il y avait
sans
pas grand chose.
Sans imagination,
sans projet de jeu, quoi.
Mais ça s'est répété 4 fois, quand même.
Ouais. Surtout contre Porto, gênant. À Porto, c'est là où c'était le plus gênant parce que là il y avait un sentiment vraiment de démission.
Et l'Olympiakos en face était un bon groupe, solide, enfin sans grand génie, à l'exception de Mathieu Valbuena qui était vraiment l'accélérateur de jeu et qui se battait sur tous les ballons. Évidemment, c'était face à l'OM, donc il avait encore plus envie de se montrer. Et c'est lui qui amène le but en toute fin de match pour Hassan avec un très beau centre. Et le fait qu'il ne soit pas là ce soir, à mon avis, même s'il y a le retour de Mohamed Madi Camara qui n'avait pas joué le match aller, le Guinéen, quand même sans Valbuena, à mon avis, c'est quand même un sacré handicap pour l'Olympiakos. Et si, bon, évidemment, ça fait beaucoup de si, mais bon, après, Villas-Boas, bon, qui quand même a reconnu hier l'échec, c'est pas tous les jours quand même qu'on voit un entraîneur qui dit oui, c'est un gros échec de ma part dans ma carrière, voilà, c'est ma responsabilité. Bon, il l'a dit hier en conférence de presse quand même, c'est pas rien. Et donc, effectivement, lui et le groupe, parce que la tendance par rapport à la semaine dernière, où effectivement c'était la honte totale au soir de la défaite face à Porto, les 13 consécutives, le 0 but marqué, ils avaient tous envie de se cacher sous la moquette ou sous la terre. Là, ils ont gagné effectivement contre Nantes. Alors, c'est pas nouveau qu'ils gagnent leur match de championnat après la défaite en Ligue des Champions. C'est la 4e fois de suite. Mais là, apparemment, quand même, l'OM a bien joué et aurait trouvé la formule. Et d'après Villas-Boas, il y a eu un déclic mental. Donc, ça leur donne le moral au moins et l'espoir que ça y est, ça peut être marché. Et effectivement, c'est le test. Ce soir, je crois qu'on verra ce que vaut vraiment cette équipe de Marseille. Soit ça marche un jour, soit ça marche jamais. Et Eric, je crois que c'est le soir, quoi.
Mais Eric, vous avez raison. Moi, je suis comme vous. Je pense qu'ils vont gagner ce soir. Et en plus, ils sont tranquilles parce qu'ils se qualifieront pas quand même. Donc, ils vont mettre fin à la série qui est honteuse et ils ont au moins à se cacher. Et puis, la dernière journée fera que ça sera extrêmement compliqué de se qualifier en Europa League.
À Manchester City,
donc, franchement, l'objectif ce soir, c'est de gagner. C'est accessible, c'est jouable. Olympiakos, c'est une bonne équipe de Ligue 1. Il y a des joueurs qu'on connaît qui seraient même pas aujourd'hui, peut-être, qui pourraient pas jouer à Lille ou Paris Saint-Germain, ou même voir à Marseille, encore que. Mais ils ont la possibilité ce soir quand même de mettre fin à cette série horrible.
Shérif.
Il y a encore un objectif quand même, c'est l'Europa League. Donc,
non, mais ça les intéresse pas, Shérif.
Non, mais laisse-moi finir. Ils peuvent gagner, il suffit de gagner 2-0. Ça les intéresse pas, mais à Marseille, il y a les supporters. Je pense que les supporters,
ils sont pas dans les tribunes.
Non, mais laisse-moi finir. Marseille, l'OM, il y a une mystique européenne, de tout temps. Ça, je veux dire, c'est le.
Là, c'est surtout une mascarade.
Laisse-moi finir. Je pense que les joueurs ont conscience de ça. Donc, on va s'en rendre compte ce soir. Si oui ou non, ils respectent la tradition du club.
Ouais, ça fait 4 matchs, 4 défaites, 0 points.
Parce que Marseille et le public, les supporters sont attachés à ça. Ils te le font savoir. Mmh. Et à partir de là, le fait de pouvoir se reprojeter sur l'Europe, même la petite Europe, la coupe sans oreille, comme je l'appelle, c'est un truc qui fait. Alors, c'est un truc qui fait.
Je vais te dire deux choses. Voilà. Je vais te dire deux choses. D'abord, s'il faut attendre d'être honteux, ridicule, et la cinquième journée. Non, mais écoute-moi, laisse-moi finir. S'il faut attendre la cinquième journée pour avoir conscience que t'es ridicule, c'est scandaleux. La deuxième, est-ce que tu penses aujourd'hui, même la petite Europe, est-ce que tu penses que la situation de l'OM, sportivement, financièrement, l'état d'esprit, le coach, les joueurs, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à aller jouer à la Ligue Europa?
Je crois pas.
Sincèrement, je crois pas.
On aura la réponse ce soir. Il y a une soirée spéciale sur RFI. Eric, vous me disiez taquine, voire méchante avec l'OM, un club pourtant important en France. Mais je vais vous citer un auditeur de notre page Facebook, Jerry Ronald Silutoni, qui nous dit « L'OM est incontestablement le seul club européen qui rivalise avec le grand Real Madrid en Ligue des Champions, à sa manière. 13 records partout en Ligue des Champions, 13 titres pour le Real Madrid et 13 défaites de suite pour l'OM. C'est le nom de la France qui est cité partout grâce, encore une fois, à Marseille. » Vous voyez, il n'y a plus taquin que moi.
C'est bien de voir les choses ainsi, de manière positive. C'est bien.
Bon, espérons que les auditeurs, ce soir, qui suivront la soirée spéciale sur RFI, animée par Olivier Pron et Hugo Moissonnier, avec vous aussi, Naïm Moniol, et vous, Eric Mamrut, sera plus gai, n'est-ce pas ?
Je pense qu'il y aura des buts.
D'accord. Merci beaucoup, Eric, et bonne soirée donc du côté du Vélodrome. L'OM pense donc simplement à sauver l'honneur ou à arrêter la spirale honteuse. D'autres, eh bien, veulent sauver leur huitième de finale.
Varane derrière sur Thibaut Courtois. Pas un ballon facile à négocier. Il s'en sort bien. Il s'en sortait bien, Thibaut Courtois. Et quelle mauvaise relance! Ça fait 2-0 pour le Deportivo Alavés. Le Deportivo Alavés vient s'imposer comme l'a fait Cadix. Troisième défaite pour le Real Madrid.
Des hauts et des bas pour le Real Madrid, comme de nombreux clubs européens. Mais le Real peut-il se permettre ce genre de mauvais résultats? Alors en Liga, rien n'est encore grave dans la situation, encore moins perdu, même en dépit de cette défaite face à Alavés et une autre défaite, ce qui fait que sur les trois derniers matchs, il y a quand même eu deux défaites et un nul. L'équipe de Zidane est d'ailleurs cinquième à 7 points d'un autre Real, c'est la Real Sociedad. Mais en Ligue des Champions, après avoir perdu, les Merengues ont quand même redressé la barre, et notamment c'était face à l'Inter, ils ont gagné les deux fois. Alors dans ce groupe serré, avec le Mönchengladbach et l'Inter Milan donc, ce soir ils joueront en Ukraine face au Shakhtar. Peuvent-ils rater leur rendez-vous en huitième de finale, le Real Madrid?
Mathématiquement, oui.
Naïm, oui.
Mathématiquement, oui.
Mais vous allez me convaincre que vous n'allez pas raisonner que mathématiquement.
Ah non, moi je suis sûr qu'ils vont le réussir, parce que...
On a l'impression que ce Real a culé...
Le Real, il est
jamais... C'est réagir.
Donc, le Real, il sait réagir quand il est vraiment dos au mur. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il attend d'être dos au mur pour réagir. Parce qu'il a quand même une équipe, même si
peut-être
elle est vieillissante.
Peut-être qu'ils sont très fatigués, comme beaucoup d'équipes.
Oui, mais comme beaucoup d'équipes. Et puis il y a quand même du talent, puis il y a quand même un peu d'argent. Enfin, il n'y a pas eu de recrutement, ou quasiment pas. Les joueurs qu'on attendait, comme Eden Hazard, qui manifestement, ça tourne quand même un peu au fiasco aussi, son histoire à lui. Donc il y a un vrai souci. Le vrai souci du Real, c'est qu'il prend beaucoup plus de buts que les années précédentes. Sur les années précédentes, même les années où il gagnait la Ligue des Champions, c'était pas phénoménal dans le jeu, mais il avait des individualités qui lui permettaient, notamment Ronaldo, Benzema, Ramos, qui lui permettaient de s'en sortir, et un bon bloc défensif. Cette année, il prend des buts à tous les matchs. Ça, c'est une vraie première avec le Real depuis 4-5 ans.
Et là, on entendait une erreur de Courtois, et malheureusement, c'est pas la première.
Non, c'est pas la première.
Il était beaucoup mieux quand même.
Ouais, il voilà, est quand
il
même
était,
beaucoup mieux.
Ouais, enfin, il n'a rien à voir.
Après, après le confinement, il a fait partie des joueurs qui ont pris la baraque et qui.
Plus que la baraque.
Après, le Real, ce qui est choquant, c'est que le Real, normalement, il devrait être qualifié, mais même l'Inter. On n'attendait pas, c'est Mönchengladbach dans ce groupe-là.
Inter est dernier de ce groupe.
Mönchengladbach dans ce groupe-là, on ne les attendait pas à ce niveau. On n'attendait pas Mönchengladbach à ce niveau. Et c'est surtout le Shakhtar qui va gagner au stade de la réserve, là. C'est ce match-là qui les met dedans. En fait, c'est ça.
Il avait misé sur une équipe A prime, voire B.
Oui, mais c'est surtout que le Shakhtar arrivait avec des joueurs en moins parce qu'il y avait du Covid.
À cause du Covid. Donc bon. Mais justement, et Zidane s'est pas méfié et finalement, ils étaient menés 3-0. Je crois
c'est pas qu'il s'est pas méfié.
Ils sont battus 3-2.
Je pense que le Real, quand tu as des joueurs de ce niveau dans cette équipe et qui sont capables de te sortir d'à peu près toutes les situations, tu te reposes un peu sur eux. Mais le problème, c'est que les individualités ne peuvent pas tout faire tout le temps.
Eh oui. Et c'est pas que dans ce club-là. Hein.
En plus.
N'est-ce pas? Shérif, bon, déjà, vous serez à un peu acculé.
Déjà, non, mais je suis d'accord.
Souvent, ils ont du mal quand même dans la phase de groupe. C'est
le
pas.
Truc, le
c'est
truc, jamais... c'est ils s'en sont toujours sortis et même dans les matchs coup près, globalement, quand ils avaient été en difficulté à l'aller, ils réussissaient à renverser au retour.
Sauf qu'il y a moins de notion d'aller de retour en ce moment.
Donc là, déjà, au niveau de la défense, je suis d'accord avec toi, Naïm. C'est plus trop ce que c'était.
Surtout quand il y a pas Ramos.
Après, il y a un manque à chaque ligne, c'est-à-dire Ramos, Valverde au milieu et en attaque Benzema, c'est pas rien, c'est quand même presque la colonne vertébrale, donc c'est trois choses qui manquent. Pour en revenir maintenant à la Coupe d'Europe, Mönchengladbach, c'est un peu la dynamique des clubs allemands qui sont très très bien placés dans les deux compétitions, donc c'est moi vrai. Je les voyais quand même plus forts que ça. Même si, l'Inter,
eux aidés par une fin de saison en fin de
confinement. Et la deuxième chose, c'est pour en venir au match précisément à l'aller contre le Shakhtar. Le Shakhtar, on connaît devant, c'est en général c'est sud-américain et très ukrainien derrière, mais ça jouait trop vite pour le Real. Et ça, c'est un vrai problème. Et là, je te rejoins, Naïm. Les difficultés, c'est que c'est une équipe vieillissante derrière et que comment dire, quand tu as une équipe, mais c'est le Shakhtar, ils ont joué à 100 à l'heure devant. Et ils étaient complètement dépassés.
Des équipes qui jouent à 100 à l'heure, le Real, il en joue 2-3 en Espagne quand même. Il a quand même plutôt globalement.
Naïm,
oui, il perd en Espagne.
Naïm, ils ont perdu. Ça allait trop vite pour eux. C'est pour ça qu'ils sont en difficulté aujourd'hui. Et ça rejoint ton analyse que derrière, c'est friable. C'est tout.
Peut-être
ils sont pas éliminés, j'ai pas dit ça. Hein.
Peut-être que la bonne carte à jouer ce soir, elle viendra de Benzema qui serait de retour dans le groupe.
Oui, alors c'est sûr que c'est pas le même profil avec Mariano Diaz. J'ai vu le match face à Alavés, c'est plus un joueur de profondeur en première intention. Benzema, c'est aussi un joueur qui participe.
C'est tout, Benzema.
À la construction, il récupère même effectivement des ballons assez haut et puis il ventile sur les côtés. Et c'est vrai que c'est aussi une équipe et c'est bien de le rappeler. Il y a des joueurs qui ont un an de plus et pour se remettre en action, c'est un peu plus difficile au niveau du rythme, des joueurs tous. Comme Modric, Kroos, notamment au milieu de terrain, qui sont des joueurs importants. Après, allez, ils ont peut-être une marge collective moins importante en ce moment. Il y a deux joueurs qui sont absolument indispensables à mon sens. C'est le Cristiano Ronaldo de la défense, c'est Ramos et Benzema, comme vous l'avez cité à juste titre. Mais pour moi, après on verra, ils ont fait le plus difficile lors de la double confrontation face à l'Inter, qui était certainement l'adversaire, le plus dangereux peut-être avec Mönchengladbach.
Oui, surtout d'aller gagner.
Là-bas. Puis c'était pas un match simple. Moi, j'ai envie de dire plutôt rendez-vous au mois de février pour le Real, parce que ça peut être une autre équipe également, parce qu'ils mangent peut-être leur pain noir avec beaucoup de blessures en ce moment et de la fatigue, mais on sait qu'ils sont très forts
toujours
à partir des huitièmes de finale.
Tu sais, le souci du Real, c'est que comme ils sont en train de préparer un énorme coup sur Mbappé, ils ont pas mis trop de pognon dans le recrutement cette année, puis en plus t'étais post-Covid, t'avais peut-être un marché qui était biaisé par rapport aux années précédentes, donc ils se sont dit, on va repartir avec les mêmes, puis comme on avait acheté des très jeunes qu'on avait prêtés à droite à gauche, on va les récupérer, ça a marqué. Mais finalement, ça marche pas
comme
tant que ça.
Comme le Norvégien.
Voilà. Comme Odegaard. Oui, comme Odegaard. Et puis, comme Rodrigo. Et puis, voilà. Il y a plein de joueurs comme ça. Ouais. Qu'on attendait peut-être à un niveau supérieur. Qu'on attendait en tout cas tirer un petit peu le niveau au-dessus. Et ça a pas marché. Et ça a pas, et c'est un constat.
La saison est longue.
Mais si tu prends par exemple un joueur comme Eden Hazard, on a dit, il a tellement raté la saison dernière que cette année c'est presque une recrue.
Tu as parlé de Fiasco. On se dirige tout droit.
On est en train de parler d'un
événement. Il y a une statistique qui dit qu'en 7 ans, Eden Hazard avait manqué 20 matchs à peu près du côté de Chelsea. Et là, en 16 mois, je parle même pas en année, en 16 mois, 37 matchs déjà manqués. Et là, il vient de se blesser contre la
Vesse. C'est une saison. Il faudrait connaître. Enfin, bon,
les médecins, j'ai lu par ailleurs que les médecins de l'équipe de Belgique, c'est-à-dire de l'équipe nationale, sont très inquiets sur le cas.
Oui. Alors, il faudrait savoir pourquoi. Alors, ils doivent mieux savoir que nous. Il n'y a pas de rumeur particulière sur une hygiène de vie qui serait à côté de la plaque, un peu comme Ousmane Dembélé à un moment. Par contre, ce que je sais de Eden Hazard, et peut-être certains le savent ici aussi, c'est que, bon, moi j'avais déjà interviewé même des joueurs comme Cabaye et tout, qui m'avaient expliqué qu'à l'entraînement, peut-être que c'est pas le cas au Real, j'en sais rien, peut-être qu'il a changé de logiciel. L'entraînement, c'est pas que ça l'intéressait pas, mais je me souviens de cette phrase que m'avait dit Cabaye, et il m'avait dit à l'entraînement, Hazard, c'est un joueur de CFA, et en match, c'est un joueur de Ligue des Champions. Peut-être que c'est aussi lié à sa manière aussi peut-être de travailler en termes d'intensité aux entraînements.
Pas assez bien s'entraîner.
C'est une hypothèse. C'est ce que j'avais eu comme retour. Donc je sais pas après si ça correspond à quelque chose.
Mais c'est intéressant
quand même à évoquer.
Chérif. Ouais. Il a commencé en pro à Lille. Il a été lancé par Claude Puel à 17 ans.
Je pense qu'il y a une forme d'usure, une fatigue.
Bah, il a quel âge? Il a 30 ans maintenant.
Ouais. 30 ans.
Donc 14 ans. Après, c'est toujours au taquet. N'oubliez pas, Chelsea est champion. Grâce à Hazard.
Je vais te dire un truc.
Et c'est une saison de malade qu'il fait.
Eden Hazard, il avait aussi connu une époque à Chelsea où il était moins soumis à la concurrence qu'il l'est aujourd'hui. T'as une pression aujourd'hui au Real Madrid parce que les gros transferts au Real, ils en ont vu passer 4-5 quand même.
Oui, mais qui est en concurrence avec Hazard?
C'est pas une histoire de concurrence, c'est une histoire de pression. C'est l'histoire de pression. Il est arrivé au Real avec le statut du gros transfert, parce que Ronaldo plus là, Gareth Bale qui était bon, qui était à demi là, on sait pas trop. Et finalement, ça s'est pas enclenché comme il l'aurait voulu, et la pression faisant.
C'est tout de suite.
Peut-être que psychologiquement, c'est un joueur qui est pas si fort que ça dans sa tête. À Chelsea, il avait pas ce problème.
Non.
À Chelsea, il avait pas ce problème parce qu'il était quasiment indispensable. Il y avait moins la pression, moins d'attente, puis il était beaucoup plus jeune, beaucoup plus vif, machin. Aujourd'hui, au Real, c'est pas une histoire de football, de niveau.
Non.
C'est une histoire aussi de contexte. Peut-être que le contexte madrilène lui convient pas.
Eh bien, ça sera très intéressant en tout cas. Et ce match est à 18h55. Hein, c'est un des premiers de Shakhtar. Bon, on attend la fin de l'émission. Hein.
Attention au Shakhtar avec sa colonie de Brésiliens. Toujours se méfier parce qu'il y a toujours des bons joueurs de foot.
C'est leur porte d'entrée.
Et quand ça va pas derrière au Real, tu prends l'eau. Hein.
Attention à Tyson, gare au chaos avec lui.
Attention à tout le monde.
J'ai l'impression qu'il ne met plus de KO, Tyson, non? Je me trompe.
Non, mais celui du Shakhtar encore.
Encore. Allez, on continue avec les Reds. Eux aussi, le chemin a été plus compliqué que prévu. Liverpool et son COP. Écoutons, on a eu envie de se faire plaisir du temps où l'affiche de ce soir, Liverpool, Ajax Amsterdam, avait des airs de vintage où il y avait du monde dans les tribunes. Les années 70 dans le stade d'Anfield où je vous conseille de regarder les images parce que c'est vrai que c'est des copes debout et les visages c'était
avec
avant
des vagues.
Voilà, c'était avant les grèves des mineurs et avant l'époque Thatcher, donc il y avait encore des ouvriers en Angleterre et c'était eux qui allaient dans les stades. Les hommes de Liverpool, en tout cas, vont plutôt bien en Première Ligue. Hein. Ils sont co-leaders avec Tottenham. Par contre, en Ligue des Champions, les Reds sont un peu moins réguliers. Ils ont surtout essuyé une défaite récemment à Anfield, ce 2-0 qui a même relancé l'Atalanta. Feront-ils mieux ce soir face donc à cet Ajax qui est un peu comparable à l'Atalanta et qui a autant de points en plus que l'Atalanta? Ils sont pas loin dans ce groupe D où tout le monde se tient. Écoutons Jürgen Klopp, il y croit bien sûr.
Pourquoi est-ce que le match contre l'Ajax ne serait pas disputé? C'est une très bonne équipe qui a fait forte impression dans son championnat depuis notre confrontation au match aller. On avait gagné 1-0. Ils ont eu de très bons résultats depuis. C'est une équipe talentueuse qui est solidement installée en tête du classement et qui en plus a bénéficié du retour de joueurs absents. Je m'attends donc à un match serré.
Il s'attend à un match serré. L'Ajax, effectivement, il y a une sacrée statistique, Chérif. 17 matchs à l'extérieur de Ligue des Champions, sans défaite.
Pour l'Ajax? L'Ajax joue à domicile comme il joue à l'extérieur, donc c'est pas surprenant. L'Ajax se porte bien. Ils sont leaders avec 2 points d'avance. Je sais plus combien. Ils ont déjà 45 buts en je sais plus combien de matchs.
Il y a eu un 13-0 aussi.
Ouais.
Ça aide.
Tout va bien à l'Ajax, ils sont complets. Donc,
ouais, et puis on retrouve un peu l'équipe aller. D'il y a deux ans.
Il y a un joueur qui émerge quand même, il faut en parler.
Qui ça?
Un international africain quand même.
Lassina Traoré.
Ouais.
Donc, j'y arrive, troisième meilleur buteur à un point de... Du premier buteur d'Eredivisie. Tout va bien à l'Ajax.
Du championnat hollandais.
Voilà. Tout va bien à l'Ajax. Sauf que, bon, à l'aller, on a vu la différence. C'était pas un grand Liverpool. L'Ajax avait bien joué. Ils ont eu des occasions, mais finalement, ils perdent 1-0. J'ai peur que le scénario se retrouve. À Liverpool, ça va pas trop mal. J'étais un peu inquiet quand il y a eu toute cette cascade de blessures et ces résultats mi-figue mi-raisin, même le 1-1 qu'ils prennent ce week-end, à dernière minute sur un pénalty imaginaire, ils auraient dû gagner, ils auraient dû être.
Ouais, ils étaient très, très en colère contre la VAR anglaise.
Donc, a priori, avec l'Ajax, il faut s'attendre à tout. Comme ils sont encore invaincus dans les matchs à l'extérieur, il faut s'attendre à tout. Mais je pense malheureusement que Liverpool est au-dessus et que ça va jouer pour la deuxième place entre l'Atalanta et l'Ajax.
Chérif, est-ce qu'on retrouve un peu l'Ajax d'il y a deux ans? Parce que l'année dernière, il y a deux ans, ceux qui avaient éliminé le Real Madrid.
Oui, bien sûr.
Alors, ils ont perdu des joueurs. Il n'y a plus Ziyech, il n'y a plus De Ligt,
il n'y a plus De Jong.
Il y a encore Tadic, ils ont rapatrié. Ils ont rapatrié.
Oh, Nana est toujours dans les buts.
Voilà.
Mazraoui.
Est-ce qu'ils ont retrouvé, parce qu'il y a toujours le même entraîneur, Eric De Tag, là. Est-ce qu'ils ont retrouvé cette dynamique?
Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais.
Oui, mais l'année dernière, si je me trompe pas, ils sortent pas des poules.
Ils sortent des poules, mais parce que ils mènent 4-1 à Chelsea.
Ils sortent pas des poules, ils sont éliminés.
Ils sortent pas des poules, mais ils mènent 4-1 à Chelsea. Ils sont
pas loin. Ils sont pas loin.
Voilà, ils sont pas loin.
Et c'était une poule pas simple. Il y avait Valence également.
Non, mais après, il faut se reconstruire. Et on sait que l'Ajax, de toute façon, comme ils perdent des joueurs, ils vont chercher des joueurs de plus en plus jeunes. Donc,
non, mais je les accuse de rien. J'essaie de comprendre comment et on retrouve une dynamique.
Quand Klopp dit qu'il prend cette équipe au sérieux, c'est pas du second degré.
Non, sûrement pas.
De toute façon, ils peuvent pas dire le contraire, mais
oui.
C'est moins complet qu'il y a deux ans.
C'est pas du second degré.
C'est moins complet qu'il y a deux ans. C'est moins talentueux.
Oui.
Ils ont le défaut de leur qualité, c'est-à-dire que c'est une équipe, par exemple, qui est beaucoup plus fraîche physiquement que l'Atalanta Bergame. Ça pourra jouer sur la dernière journée. Par contre, c'est moins talentueux, moins vicieux, c'est moins armé sur l'Europe, moins expérimenté, moins complet. Mais c'est une équipe qui peut poser des problèmes et qui peut t'affaiblir. Pour la suite, même si le calendrier en fait il est en la faveur de Liverpool, quand même Liverpool fera un faux pas ce soir, il joue Midtjylland sur la dernière journée,
la vraie finale
ça sera la semaine prochaine entre l'Atalanta et l'Ajax. Mais c'est une équipe qui est moins complète, mais qui peut t'user.
Nabil.
Mais je crois qu'on réalise pas surtout comment c'était exceptionnel il y a deux ans. Mm-hmm. En soi, c'est une bonne équipe avec des prospects, des joueurs intéressants qu'on va peut-être retrouver plus tard.
Ils auraient dû jouer la finale contre Liverpool,
c'était absolument merveilleux, une frustration incroyable pour ma part, en tout cas de les voir éliminés en demi-finale. Vous avez rappelé les noms de ces joueurs qui aujourd'hui sont dans des top clubs européens. Mm-hmm. Peut-être que Lassina Traoré, par exemple, l'international burkinabé, en train de montrer des belles choses. Vous savez, des grands attaquants qui sont passés par l'Ajax assez jeunes. Suarez, Ibrahimovic, Mido, si je puis me permettre, et d'autres encore. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quelques Africains quand même. Il y a Mazraoui, il y a Labiad également qui est relancé, qui est un Marocain qui s'est perdu en cours de route, qui avait commencé très tôt. Ouais. T'as un prodige aux Pays-Bas qui est parti au Portugal, qui s'est pas bien comporté du côté du Sporting. Il se faisait reprendre parce qu'il allait en boîte de nuit.
Il est un joueur extrêmement
talentueux. Et c'est aussi peut-être un peu l'ADN de cette équipe de relancer comme ça des joueurs. Ensuite, ils ont quand même conservé des valeurs sûres, à mon sens. Tagliafico à gauche, l'international argentin, c'est un vrai joueur. Nana et encore là, Mazraoui également, et surtout celui que j'adore, que j'avais, et ça c'est mon petit kiff personnel, que j'avais accueilli pour la cérémonie du Ballon d'Or, il avait été adorable avec moi. Mais quel merveilleux joueur qui est Tadic. Tadic, dommage qu'il a 30 ans, parce que s'il avait 22 ans, il serait au Real.
Non, bien sûr. Les clubs français l'ont raté hein. Pendant des années, ils ont snobé la Eredivisie. Grosse erreur.
Est-ce qu'il avait le même niveau aussi?
Naïm.
Est-ce qu'il avait le même niveau?
Moi, en début des années 2010, j'ai vu un défenseur central qui s'appelait Virgil van Dijk, et tu vois tout de suite que le mec, c'est super fort.
Et il avait le même niveau qu'à Liverpool?
Écoute,
je me méfie tel club a raté tel joueur il y a 8 ans. Peut-être qu'il y a 8 ans, il n'avait pas le même niveau aussi.
Il y a quelques années, j'avais sur mes tablettes une dizaine de noms, j'arrêtais pas d'en parler. J'ai même écrit un article sur SoFoot en disant il y a des talents.
Je t'ai dit que tu pouvais être directeur sportif, chérif, tu m'écoutes pas.
Il y a des talents plus.
Il y a des joueurs évidents, en fait.
Tadic, il avait déjà ça.
C'était évident.
Ziyech, quand il arrivait,
c'est des mecs qui sont très talentueux. Tous les joueurs que vous citez, que Nabil a cité, que tu cites, c'est des mecs qui sont très talentueux. Mais là, t'es en Ligue des Champions, tu joues Liverpool. De tous ceux que tu m'as cités, lequel va faire la différence tout seul? Tu sais, la différence, c'est que quand Liverpool, écoute-moi, Naïm, quand Liverpool joue bien.
T'écoutes pas,
quand Liverpool joue bien.
Je te parle de L1, tu me parles de Ligue des Champions.
Écoute-moi, quand Liverpool joue moyennement, qu'il est en difficulté, ce qui lui arrive, même en championnat, il a 2-3 joueurs très au-dessus du lot qui vont le faire gagner. Tu prends l'Ajax que tu m'as cité. Tous les mecs que tu m'as cités sont très bons. Je souhaite de tout mon cœur que Traoré, que Labiat, que machin, ce soit des super joueurs.
Ils ont un bon entraîneur.
Mais tu n'as, oui, mais tu n'as aucun joueur là-dedans qui seul va te plier un match de Ligue des Champions. La différence, elle est là. Tu prends l'Atalanta, c'est peut-être moins une école de foot, moins de jeunesse, moins bon physiquement, moins machin. Ils en ont 2-3 qui peuvent te plier un match de la Ligue des Champions. Pas Ajax. La différence dans ce groupe, elle est là.
À noter quand même que l'infirmerie déborde toujours du côté de Liverpool, hein, parce que ajoutons à Van Dijk, à Alcantara, il y a Alexander Arnold, Oxlade-Chamberlain qui joueront pas soir, probablement non plus Joe Gomez et Naby Keïta. Ouais. Donc ça commence à faire
en revanche la bonne, enfin pas la bonne nouvelle,
Fabinho.
C'est que Fabinho a pris la place de Gomez en axe central et bon
pendant
il fait le job
week-end,
partout.
Effectivement.
Voilà, c'est plutôt rassurant pour Liverpool.
Alors cette Atalanta en tout cas, elle semble peut-être un peu refaire ce qui s'était passé l'an dernier. On se souvient, 3 défaites et puis tout d'un coup un 8e de finale. Matteo Cioffi est là avec nous. Bonjour Matteo.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Matteo, en championnat c'est pas tout à fait ça, mais l'Atalanta, pourquoi pas, c'est le match avec l'Ajax Amsterdam auquel on les compare un peu d'ailleurs.
Bah oui, faut dire que l'Atalanta a peut-être trop épaté les bourgeois, trop belle pour lui pardonner quelques heures de trop. Et pourtant, elle est encore capable d'éblouir, demander à Jürgen Klopp, non?
Oui, c'est vrai que 2-0 à Anfield.
À Anfield, voilà. C'est vrai que c'est l'équipe paraît moins explosive qu'il y a quelques mois et souffre paradoxalement le fait d'être maintenant connue. Tout le monde connaît l'Atalanta. Mm-hmm. Son jeu, c'est vrai, peut-être irrésistible, mais aussi prévisible. C'est pour ça que le technicien Gianpiero Gasperini a voulu renouveler l'équipe avec des nouvelles recrues qui promettent bien et qui sont utilisées pour varier le jeu. C'est le cas, par exemple, du russe Miranchuk, qui offre nombreuses solutions au niveau offensif. N'oublions pas ensuite que l'équipe est à la recherche du meilleur Josep Iličić, qui a tout est en train de retrouver son meilleur niveau.
Exactement.
Après une longue convalescence.
On verra ça en tout cas ce soir et surtout, évidemment, tout semble se jouer ou prévu pour se jouer la semaine prochaine. Restez avec nous, Matteo. On va parler de Serie A, mais n'oubliez pas, sur RFI, il y aura ce soir donc cette soirée spéciale Ligue des Champions, vous en avez pris l'habitude maintenant.
Lucia San Siro di quella sera che c'è di strano siamo stati tutti.
La conclusione, c'è il 3-0 dell'Inter.
L'Inter Milan qui s'impose, victoire 3-0 des joueurs de l'Inter. C'est une belle opération réalisée par l'Inter.
E se ti trovo ti amo là.
C'est terminé, Milan est un solide leader, oui très solide leader. Les poursuivants désormais se trouvent au mieux à 5 points des Rossoneri.
C'est beau, hein, ça chante, hein.
C'est, ça fait du bien.
Ouais, hein, ça met un peu de gaieté.
Exactement.
Dans Radio Foot. 9 ans que les Tifosi n'avaient pas vu ça. 9 ans que les deux clubs de Milan, les Rossoneri du Milan AC et les Nerazzurri de l'Inter Milan, n'avaient pas occupé les premières places du championnat. Sans Ibra, blessé, les Milanais l'ont emporté et finalement, eh bien, ils ont accumulé le plus grand nombre de points. C'est ce que me disait Matteo quand on préparait l'émission, d'une équipe de championnat européen. Donc comme quoi, ça marche plutôt bien du côté de l'Italie. Matteo, c'est Rossoneri que vous êtes allé voir jouer contre la Fiorentina ce week-end à San Siro. Donc, dans cette équipe, la curiosité finalement, c'est peut-être l'entraîneur Stefano Pioli qui est enfin pris au sérieux.
Bah, écoutez, tout d'abord, Stefano Pioli a déjà mis un petit record dans sa poche, car 23 points après 9 rencontres, c'est un record absolu pour le club rossoneri, qui gagne même s'il privé d'Ibrahimovic. Sans lui, l'équipe n'a jamais perdu, et dans cette saison, elle a gagné 5 fois sur 6. Chose qui souligne la force du groupe, confirmée aussi par le fait que dans ces 6 rencontres, l'AC a réalisé 13 buts, et ce but a été signé par 9 différents joueurs. Cela prouve l'excellent travail de Pioli, qui sait comment trouver des solutions alternatives à Zlatan. Stefano Pioli, toujours discret et humble, et qui en ce moment est béni par les tifosi de l'AC Milan, qui pourtant il y a tout juste un an l'avait très mal accueilli, surtout à cause de son passé à l'Inter. Un hashtag, je me rappelle un hashtag qui circulait sur le net et qui disait « Pioli out » et ils étaient nombreux à l'avoir signé.
Cet entraîneur, Stefano Pioli, Naïm, c'est lui pour vous le magicien un peu à la baguette de ce Milan AC? Parce que ça fait longtemps qu'on cherche une dynamique du côté du Milan AC. Alors c'est pas que Ibra.
Il fait à Milan ce que Villas-Boas ne fait pas à Marseille. Ça on peut dire ça comme ça. Non mais il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que à Milan, c'est pas Matteo qui va me contredire à mon avis, ça commence à retrouver un peu de sérénité en coulisses. Un des vrais problèmes du Milan sur la dernière décennie, c'est que c'était un peu le foin dans l'organigramme, que des mecs arrivaient, on savait pas bien pourquoi ils avaient été nommés, ils faisaient
comme
pas du bon boulot.
Ouais,
un peu comme à l'Inter. Et puis, mais avec l'argent en moins aussi. Et puis, on savait, il y a des mecs qui arrivaient, on savait pas bien ce qu'ils faisaient là, ça partait très rapidement, celui qui le remplaçait était pas au niveau. Là, ça commence à retrouver une structure, on va dire, à peu près correcte. Pioli fait du très bon travail, il a surtout réussi quelque chose de formidable, c'est qu'il a trouvé une stabilité dans l'effectif, une animation, ils ont surtout recruté.
Voilà, c'est ça.
Mais ils ont surtout très bien recruté. La nouveauté avec l'AC Milan cette saison, même déjà l'année dernière, c'est que contrairement à la grande majorité des années 2010, ils ont très bien recruté des bons joueurs, des jeunes, avec une vraie marge de progression, une vraie valeur marchande. Prenez Locatelli de Sassuolo, qui est un joueur international italien qui est très très fort. Il vient de Milan. Donc ils ont aussi comme ça des joueurs capables de revendre des joueurs pour engranger de l'argent, en remplacer d'autres, en faire venir d'autres. Et ce qu'ils sont en train de monter, on parle beaucoup d'Ibrahimovic parce que nous en France il a joué à Paris, c'est le plus connu. Mais tous les jeunes qu'il y a autour, ça commence à prendre une vraie valeur dans le jeu.
Et ils arrivent même à gagner sans lui.
Ils arrivent à gagner sans lui. Oui, puis c'est surtout, ils arrivent à battre les grosses équipes. Ce que faisait plus Milan depuis longtemps, ils ont battu Naples, ils ont battu l'Inter, ils ont fait 3-3 contre la Roma. De toute façon, c'est simple. Il y a que Lille qui a battu Milan cette année. Il y a que Lille. Donc Pioli, il a trouvé le bon amalgame entre les jeunes, les anciens, de la stabilité dans l'effectif, dans l'organigramme. Puis après, le talent fait la différence.
Matteo, il y a aussi donc 5 points derrière l'Inter. Alors je corrigerai juste, c'est que les Milanais sont pas ceux qui ont le plus de points en championnat européen, parce que la Real Sociedad en a 24 des points et le PSG en a 25.
Mais je crois que c'est l'équipe qui a marqué peut-être le plus de buts et qui a aussi Ibrahimovic est le buteur le plus vieux des 5 grands championnats. Ils ont aussi la moyenne d'âge la plus faible, la plus jeune des 5 grands championnats, 24 ans et demi.
En tout cas, c'est pas eux qui ont marqué le plus de points. me corrigeais. Matteo, l'Inter, pratiquement écarté en Ligue des Champions, on en parlait nous ici tout à l'heure. Par contre, il se relance en Serie A et peut-être que ça relance aussi Antonio Conte.
Oui, c'est une belle victoire qui tombe vraiment au bon moment, car surtout après cette déception causée par la défaite à domicile face au Real.
Ah, Matteo. On a perdu Matteo.
Ce chaos qui a secoué.
Il y a des petits problèmes de ligne avec Matteo.
C'est le président de l'Inter qui l'empêche de parler.
Sans doute.
C'est ça.
Cet Inter Milan, ils ont perdu face à Sassuolo, qui est un peu la surprise de cette équipe, de cette Serie A, par contre, cette année. Et Antonio Conte, c'est des hauts et des bas depuis l'année dernière, en fait.
C'est surtout une déception, déjà en Ligue des Champions, globalement, parce que c'est une équipe qui a quand même un effectif de qualité, avec des joueurs quand même de classe mondiale. Après, on peut être pas d'accord, mais moi. Alors, il y en a un qui
dit l'équipe type est très bonne.
Ils ont recruté assez intelligemment, je trouve, à l'intersaison. Vidal leur apporte de la grinta, de l'impact. Mais bon, vaut mieux un mec qui
il
est surinvesti. Vaut mieux un joueur surinvesti qu'un quelqu'un qui se cache. Vidal, il se cache pas. L'arrivée d'Hakimi également est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, il y a un garçon qui retrouve un certain niveau. Mais peut-être que Matteo va nous en parler quand on va le retrouver.
Il est là.
C'est Alexis Sanchez.
Il vous écoute. Matteo, vous êtes d'accord avec Nabil?
Mais voilà, pardon, j'ai pas écouté, je viens de me reconnecter.
Non, mais
Nabil vous disait que ce qu'il aimait bien, c'est Vidal, qui a du caractère du côté de l'Inter, et puis quelqu'un qui se relance là-bas, et c'est Sanchez.
Alexis Sanchez, qu'on le retrouve à un niveau comme il l'avait en première ligue, sous le maillot d'Arsenal, par exemple.
Ben oui, c'est le duo de Chiliens qui a ce caractère que Antonio Conte aime beaucoup, même si quelqu'un de temps en temps on fait un peu trop. Vous voyez Vidal, qu'est-ce qu'il a fait avec le Real de Madrid et, en se faisant expulser,
il a
laissé son équipe un joueur en moins. Donc c'est le caractère qui est un peu le reflet et l'image d'Antonio Conte.
complètement.
Dit cela, c'est vrai que en ce moment le point fort de l'équipe, c'est surtout ce duo d'attaquants composé par Martinez et Lukaku.
Matteo, passons à la Juve, la Juventus de Turin. Alors elle n'est pas en haut du classement, et d'ailleurs c'est peut-être pas arrivé depuis des années. La Juventus de Turin qui navigue un peu en haut de tableau, certes, mais déjà un peu loin. Ils sont cinquième, si je me trompe pas. Et cette équipe, par exemple sur les derniers matchs, si on prend les cinq derniers matchs, c'est 3 nuls, 2 victoires. Quel est le point faible finalement de cette équipe, Matteo? Est-ce que c'est son milieu de terrain qui est assez critiqué? Ou est-ce que c'est aussi l'inexpérience de l'entraîneur Pirlo?
En ce moment, il faut être honnête. Plutôt que s'en prendre à Andrea Pirlo, l'opinion publique soulève des doutes sur la qualité de ce milieu de terrain de l'équipe, qui a des problèmes à être, un réel soutien offensif. Et souvent, les joueurs ont du mal à gérer le ballon, qui est un aspect très important dans le système de jeu voulu par l'entraîneur. Arthur, le Brésilien, acheté cet été pour 72 millions d'euros, n'a pas encore accompli son parcours pour s'intégrer, et paraît et beaucoup de fois trop lent dans ses mouvements. L'Américain McKenney a besoin d'expérience, tandis que le Gallois Ramsey s'est égaré après un beau début de saison. Le seul qui se sauve en ce moment, c'est Adrien Rabiot, qui a entamé de manière très positive la saison. Donc on peut remarquer que la vieille dame souffre le départ de Pjanic. Et on se demande si c'est pas le cas de rappeler Sami Khedira, actuellement exclu du projet Juve. L'Allemand pourrait bien faire l'affaire, être un appui important pour les attaquants.
Ouais, parce que on se souvient, durant le week-end, la Juventus a fait un nul face au Benevento de Pippo Inzaghi. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas Cristiano Ronaldo, bien de temps en temps, mais la Cristiano Ronaldo dépendance, on se l'est souvent posée du côté du Real, on se la reposera encore avec vous, Matteo. Laurent Salerno a trouvé une petite archive là pour illustrer une anecdote que vous nous aviez réservée. Je vous propose de l'écouter. Ça illustre, Mönchengladbach Inter Milan des temps anciens, 1971, et cela à cause d'une banderole qui est accrochée sous les fenêtres des joueurs allemands. Vous allez nous raconter ça.
Messieurs, bonsoir, ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le stade olympique de Berlin, où a lieu ce soir, vous le savez, un match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, match à rejouer entre le champion d'Allemagne, le Mönchengladbach, Borussia de Mönchengladbach, que vous voyez ici en maillot blanc, et le champion d'Italie, l'Inter de Milan, que vous allez découvrir sur ce plan large du réalisateur allemand. Vous connaissez sans doute l'histoire de ce match. C'est la troisième.
Alors Matteo, ce match, il avait été rejoué. Vous êtes allé chercher l'anecdote. Vous êtes allé chercher pourquoi il y a cette banderole sous les fenêtres des joueurs allemands. Racontez-nous.
Mais parce que en 1971, dans le premier match qui était le match de retour entre Mönchengladbach et l'Inter, à la 29e minute, l'attaquant de l'Inter Roberto Bonisegna avait été touché à la tête par une canette de Coca-Cola lancée des tribunes. Il s'était effondré à terre, mais l'arbitre avait laissé courir. Les Nerazzurri, à ce moment, avaient presque arrêté de jouer. Score final 7-1 pour les Allemands. Mais après avoir fait recours à l'UEFA, l'Inter avait obtenu de redisputer la rencontre. Cette fois-ci, cette rencontre s'était terminée sur le score de 0-0 qui avait permis aux Milanais de se qualifier, car ils avaient gagné à l'aller 4-2. Apparemment, les Allemands n'ont pas oublié cette histoire.
Et du coup, c'est une histoire de canette entre rangs de supporters. Et de Coca-Cola, oui. Bon, on leur fait de la pub gentiment. Ce match aura lieu ce soir, et ça sera aussi un match important dans le groupe B, ce match.
Il n'y a pas de public, donc il n'y aura pas de canette.
Attention aux conséquences pour Conte, mine de rien.
Mine de rien. Eh ben alors, ça sera l'occasion de rappeler Matteo. Grazie mille, Matteo, pour cette anecdote. Vous avez vu, un petit archive sonore en plus. La télévision française y était. Merci beaucoup, Matteo. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot International. Et rendez-vous donc à 20h57, heure de Paris, 19h57 en temps universel.